merci d'écouter Radio Capi ce matin et c'est l'heure de vous proposer notre chronique diaspora ou congolais de l'étranger si vous le voulez. Et ce matin, nous sommes en ligne depuis le Canada avec Yvan Omouya. Vous avez certainement déjà entendu ses noms. Il est journaliste et fondateur de CAS Info et auparavant, il a travaillé à Digital Congo, une chaîne de télévision qui émet depuis Kinshasa. Il y est resté pendant près de 10 ans avant de s'envoler pour le Canada en 2013. Yvan, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce matin. Je disais tout à l'heure, Yvan, que vous êtes parti de Kinshasa en novembre 2013. C'était pour raison d'études, c'est ça?
Exactement. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Un projet de longue date de poursuivre mes études au niveau supérieur. Alors, une chance au cours d'un voyage en raison des conférences. Ça concrétisait mon projet de poursuivre les études. Alors, j'ai eu facilement une admission ici en maîtrise, en études des conflits. Voilà, et toute l'histoire a commencé. Voilà, pourquoi je suis aux études ici au Canada.
Alors, études en conflit, de quoi il s'agit concrètement? Essayez de nous expliquer, s'il vous plaît.
Alors, j'arrive, je me renseigne. J'ai une licence en journalisme. On me dit, non, vous êtes éligible pour une maîtrise en études des conflits, un programme que j'ai repéré depuis Kinshasa. Alors ça m'a facilité la tâche d'être admis directement en maîtrise, ce qui n'était pas facile parce que c'est un système qui est un peu fermé au diplôme étranger. Alors, études des conflits, c'est un programme multidisciplinaire qui touche un peu à toutes les disciplines pour mobiliser les ressources nécessaires afin de comprendre les conflits à tous les niveaux. Les conflits identitaires, les questions que nous on a connues chez nous touchant Bundu-Dia Congo par exemple, mon projet de mémoire d'ailleurs, qui est une question à la fois politique et identitaire, comment on peut approcher cette question-là. Alors ces genres d'études te donnent les outils pour pouvoir approcher et proposer des solutions. Les conflits politiques qu'on connaît, toute notre histoire, l'histoire de notre pays est jalonnée des conflits politiques, des violences politiques, et ce genre de programme est approprié pour tout celui qui a besoin de comprendre comment est-ce qu'on résout les conflits des fonciers, les conflits interpersonnels, les conflits au travail. Bref, c'est un programme qui puise dans beaucoup de disciplines, dans l'économie. Les conflits, c'est la carence des ressources naturelles. Comment est-ce qu'on utilise les ressources naturelles qui sont censées servir tout le monde? C'est un groupe de gens qui dirigent, qui s'en accaparent, et privant tout un groupe de personnes qui vit dans un territoire donné de la RDC, qui se trouve privé des ressources nécessaires pour leur survie. Tout ça crée des conflits, les différents conflits des groupes d'ethnie qu'on a connus en Ituri, dans le Katanga à l'époque, entre les Kassaïens et les Katangais. Le conflit migratoire, la migration interne, qui est un enjeu majeur que connaît notre pays. Aujourd'hui, Kinshasa est une ville qui devait compter 10 millions de populations. C'est une ville qui est congestionné parce que tout le monde veut vivre là-bas. C'est un facteur de conflit qui peut exploser à tout moment. Donc bref, ce sont toutes ces questions-là. Lorsque je les regarde aujourd'hui avec mes lunettes d'un diplômé en études des conflits, je les regarde différemment aujourd'hui. Voilà un peu de manière survolée ce que je peux dire par rapport aux études des conflits que j'ai suivies ici et pour lequel j'ai un diplôme en maîtrise.
Alors, comment a été votre intégration? Vous avez rencontré des difficultés à l'université ou dans votre entourage?
Au début, vous savez, Julie, j'ai beaucoup voyagé avant de venir au Canada, mais la différence, c'est qu'ici, je m'installe pour une longue durée, pour des études. Quand on fait les voyages de 10 jours, j'ai fait les voyages aux États-Unis, en France, en Corée du Sud, etc., on ne se rendait pas compte de difficultés qu'il y a à s'installer pour une longue durée. Oui, c'est vrai. Le début était très difficile, mais il y a de bonnes personnes partout, une très bonne communauté congolaise qui s'est installée. Dans une petite ville où j'habitais avant, qui s'appelle Windsor, où il y a une forte communauté congolaise qui nous ont beaucoup aidés, hein, tous ceux qui venaient d'arriver. Et puis, c'est d'abord, on s'appuie d'abord sur sa propre communauté. Tu peux te démontrer comment qu'est-ce qu'on fait au Canada pour avoir un petit travail. Quel bureau il faut frapper pour compléter un dossier qui manque à gauche et à droite. Mmh. Donc, d'abord, la communauté, puis à l'école, oui, tout le monde a besoin de tout le monde à l'école, hein, que ce soit les Canadiens ou nos frères africains qui sont nombreux ici, qui font des études. On s'appuie sur des connaissances qu'on rencontre à l'école, mais aussi les Canadiens qui voudraient un peu savoir comment ça se passe en Afrique. Et nous, on en profite aussi pour savoir comment ça se passe au Canada. Voilà, donc c'est d'abord la communauté, puis le milieu universitaire qui est un milieu ouvert où chacun veut savoir ce qui se passe chez l'autre. L'intégration à ce niveau-là n'a pas posé problème. Au départ, oui, ce n'était pas facile. C'est un pays dont le marché d'emploi est très, très exigeant et qui demande d'avoir une expérience de travail avant même d'avoir commencé à travailler. Et quand on parle d'expérience de travail, c'est l'expérience de travail canadienne. Mm-hmm. Vous avez une expérience canadienne de travail et là, vous pouvez travailler. Alors, figurez-vous, vous débarquez dans un pays qui vous demande une telle exigence, ce n'est pas facile. Encore une fois, on s'appuie sur ce que nous avons trouvé qui vous montre le chemin par lequel il faut passer pour s'en sortir dans ce pays-là.
Et quelques temps après, votre famille vous a rejoint au Canada et en ce moment-là, il fallait s'occuper de vous-même, mais aussi de la petite famille. Et comment vous vous êtes organisé pour cela? Vous avez directement trouvé un emploi en dehors des études?
Oui, bon, des petits boulots. Oui, alors imaginez-vous les grands journalistes qui font des petits boulots, c'est la réalité. La réalité de vivre en Occident, au moment où on n'est pas à l'école, voilà, il y a des petites organisations qui rassemblent les Congolais qui n'ont pas de travail et qui vont travailler. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que très peu de temps seulement, j'avais reçu mon work permit, c'est plutôt comme en français le permis de travail. Mm-hmm. Bon, le permis de travail qui m'a ouvert les portes pour travailler dans la manufacture d'abord, mais j'ai pas fait longtemps parce que le programme d'études m'attendait. Alors j'ai plus passé beaucoup de temps à étudier et travailler comme assistant de recherche d'abord à l'université Saint-Paul. Ce qui m'a évité d'aller faire n'importe quel travail. Mmh. Assistant de recherche, sans me payer ce qui était nécessaire pour la survie de ma famille. Et actuellement, comme peut-être tout le monde le sait, ça m'a ouvert les portes, ça a consolidé mon dossier, de sorte que quand j'ai fini la maîtrise, j'ai été admis en doctorat, avec une bourse, mais avec la possibilité d'être retenu comme assistant, ce qui me donne quand même un peu de souffle pour pouvoir servir ma famille. Mmh. Donc, bref, c'est ça. Les réalités sont que le marché d'emploi est très fermé. Il faut avoir une expérience de travail au Canada, faute de quoi vous faites des boulots de seconde main, ou ce qu'on appelle travailler au noir. Oui, j'ai connu une telle expérience aussi. Il n'était pas facile. Alors, une petite anecdote pour vous donner une idée de ce que ça représente. Mmh. Vous allez dans une manufacture qui fait de produits agricoles. Alors, vous rencontrez une fan congolaise venue du Kivu qui sursaute. Moi, je me suis vu dans un film d'un prince à New York où la star de la télévision travaille dans une manufacture de produits agricoles Et du coup, on te dit, oh, Yvon, toi ici? Oui, moi ici. Et voilà, la vie à l'étranger, c'est ça. Dieu merci, ça n'a pas fait longtemps pour moi. Je devais être appelé à poursuivre mes études et à être retenu comme assistant de recherche, ce qui m'a permis de consolider mon dossier, comme je le disais tantôt, et de me retrouver aujourd'hui à poursuivre mes études en doctorat et à travailler comme assistant.
Mm-hmm.
Aux côtés d'abord d'une professeure très, très merveilleuse, professeure de relations internationales, et aujourd'hui je viens de commencer un autre cours qui s'appelle Politique et mondialisation, avec cette fois-ci un professeur, un monsieur, monsieur Martel. Et bon, on vient à peine de commencer, j'attends de voir comment ça fonctionne avec lui aussi. Bref, c'est ça. En deux mots, le travail compliqué si on n'a pas d'expérience, mais avec le diplôme qu'il faut, un peu d'expérience, comme je suis en train d'en avoir, et c'est facile de s'imposer ici et de travailler.
Vous avez été retenu comme assistant. Est-ce que vous êtes accepté facilement par les étudiants?
Alors, je m'occupe des étudiants d'abord de ce qu'on appelle chez nous deuxième graduat.
Mmh.
Ici, c'est baccalauréat deuxième année. C'est des étudiants d'abord très intelligents et par le système d'éducation ici qui donne beaucoup d'outils aux étudiants qui utilisent beaucoup, ce qui fait que parfois on se mesure à ces étudiants-là. Il y a des travaux que je corrige moi-même, je me pose la question si finalement cet étudiant n'a pas un niveau bien supérieur que le mien. mais malgré ce niveau, malgré ça, ils ont conscience qu'ils ont devant eux l'homme à qui on a confié l'autorité de l'auditoire. Je n'ai pas eu beaucoup de résistance de la part des étudiants, bien qu'en face, il y a par exemple un militaire de formation qui vient prendre des cours en relations internationales, certainement pour des besoins professionnels, qui manifeste un respect incroyable.
Mm-hmm.
Des étudiants comme ça venus de différents horizons qui t'offrent une attention toute particulière. Et qui font preuve de respect, oui. Je n'ai pas eu jusque-là de résistance. Quelques tiraillements sur un sujet sensible, par exemple le féminisme, qui est un enjeu très important ici. Si vous avez des positions avec des idées reçues, parce qu'on vient d'Afrique, la place de la femme, est-ce qu'elle peut être, si vous glissez un mot malencontreux de cette façon-là, oui, on vous recadre tout de suite par des femmes engagées dans le féminisme et qui étudient et qui ont des valeurs à défendre sur le plan du rôle de la femme dans la société. Alors, oui, c'est des débats parfois musclés, mais à aucun moment un manque de respect parce que il te donne ta place, la place qui t'est due, c'est-à-dire la personne à qui l'enseignant a confié la responsabilité de la classe dans cette période-là. Alors, ce que moi je fais, ce n'est pas forcément donner vraiment des enseignements à ces étudiants-là. Mon rôle, c'est de les pousser à discuter la matière qu'on a mis à notre disposition par le professeur du cours. On étale, on discute, ils ont des questions, je réponds. Mais davantage, moi, j'oriente le débat, je le fais discuter. Et puis, je corrige leurs travaux. Quand ils contestent la note, ils le font de manière tout à fait respectueuse, en nous écrivant, en saisissant le professeur. Je ne suis pas d'accord avec la note que Yvon m'a donnée. Le professeur m'appelle, me fait un message. Je regarde, je corrige ou je conteste à mon tour, je dis non, elle mérite ou il mérite cette note-là pour une telle autre raison. Donc une ambiance de respect mutuel qui permet d'en apprendre en tout cas beaucoup.
Yvon Mouya, je rappelle que vous êtes parmi les premiers pionniers de la chaîne Digital Congo. Vous y avez passé près de 10 ans avant de partir au Canada. Alors, vous n'avez pas quitté ces milieux hein, des journalistes. Vous êtes fondateur de Casinfo, une filiale du Centre d'analyse et des stratégies, un bureau d'études basé au Canada. Et dans les processus de la diffusion de l'information, donc de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information, comment trouvez-vous les journalistes canadiens alors, ou quelle comparaison pourriez-vous faire entre les journalistes canadiens et les Congolais?
Alors, premièrement, le journalisme, il est le même partout. Hein? On se réunit, on décide de ce qu'on va traiter, on va récolter les informations, on les traite avant de les diffuser. Mm-hmm. Mais la ressemblance ou les points communs s'arrêtent là. Le journaliste, c'est parmi les personnes qui sont très respectées dans ces sociétés occidentales. C'est véritablement le quatrième pouvoir. Il y a quelques jours, un chef de police du Québec, à Montréal, a dû démissionner. Pourquoi? Parce que la presse était vent debout contre les pratiques des couples des journalistes. Alors les journalistes ont levé le ton. Ce monsieur est parti. Vous imaginez le général Kanyama qui démissionne. Pourquoi? Parce qu'il y a un scandale qui touche aux écoutes des journalistes, ou bien on a arrêté des journalistes de manière arbitraire, et puis les journalistes, ils protestent, ils font beaucoup de bruit à la télévision, et puis quand même a dit « Non, je démissionne à cause de ça ». C'est vrai que nos sociétés sont différentes, mais les journalistes sont respectés, les mieux payés, c'est beaucoup d'argent hein, un journaliste. Une petite anecdote encore, j'ai parlé tout à l'heure de mon passage dans une manufacture agricole. Je discute avec un Canadien qui vivait dans le coin, c'était un petit village, qui me dit, qui apprend un peu de moi, il pose des questions, en Afrique tu faisais quoi? Et quand il a appris que j'étais journaliste, il est resté juste devant moi, il ne bouge plus. Alors il m'a fait une phrase qui m'a fait frémir la peau moi-même, il me dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Tu es journaliste et tu viens travailler ici? Alors j'étais là, je me demande, mais de quoi il parle? Quand je me renseigne, il dit, non mais monsieur, un journaliste, c'est pas n'importe qui ici. Et j'ai pu le remarquer moi-même. C'est des messieurs ici, c'est des grandes dames qui sont bien payées. Et le fait qu'ils sont bien payés leur donne l'indépendance de faire leur travail, de mettre un chef de police et d'analyser. Il y a eu remaniement il y a, je crois, deux jours. Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, a remanié son équipe, dit-on ici, dans la perspective d'avoir une équipe capable d'affronter le gouvernement de Donald Trump aux États-Unis. Parce qu'ici au Canada, ce qui se passe aux États-Unis, forcément, ça a beaucoup d'impact sur le Canada. Alors, les journalistes ont disséqué, ont analysé, décortiqué les ministres qui sont entrés et ceux qui sont sortis, pourquoi ils devaient sortir sur des chaînes publiques, RDI, Radio-Canada. On a parlé des ministres comme des simples personnes. On a touché à des points qui ont favorisé leur départ du gouvernement, leurs limites, leurs faiblesses, leur incapacité à gouverner, ce qui leur montre que ce genre de journalisme, c'est ce qu'on rêve un jour, de voir s'installer au Congo où il y a des valeurs, où il y a des compétences qui sont capables de faire le travail de manière tout à fait indépendante. Alors ce qui nous manque au Congo, c'est l'indépendance, c'est le traitement au niveau des salaires, oui, ça c'est une donnée importante. Si on ne peut pas payer un journaliste comme il faut, comment voulez-vous que le quatrième pouvoir puisse faire valoir ce pouvoir en face des autres pouvoirs qui nous piétinent, qui nous dominent parce qu'ils nous donnent de l'argent de manière tout à fait inappropriée. Donc je pense que la comparaison en termes de travail, ça se limite au niveau que tout le monde travaille aujourd'hui de la même manière. On utilise des réseaux sociaux comme ça se passe dans le monde entier. La couverture du dialogue au Congo le prouve, la presse en ligne travaille, et quand je compare les deux, il n'y a aucune différence, tout le monde fait la même chose. La seule différence, c'est que ici ils sont bien payés, nous ne le sommes pas. ici sont très indépendants, ils ont beaucoup de pouvoir, et nous, parfois, nous n'avons pas ce pouvoir-là, mais limité parce qu'il y a des questions taboues qu'on ne peut pas évoquer. Et ça, c'est déplorable dans un monde d'aujourd'hui. Dans un contexte de mondialisation, la presse devrait s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et retrouver ses lettres de noblesse, son indépendance. Je pense qu'on devrait aboutir un jour à cela. Et voilà. Donc, je ne peux pas comparer la presse au Canada avec celle que je vois en France, qui est une presse qui, peut-être, je suis un peu influencé par le bruit des radios France International qu'on écoutait depuis tout petit. Mmh. Ils ne sont pas très forts. D'ailleurs, ils empruntent les informations venues de France Télévision. Mais en même temps, ça reste des journalistes très indépendants. Un dernier mot, parce que ici c'est un pays bilingue. Hein. Mm-hmm. Là, je vous parle de la presse francophone.
Francophone, oui. Mm-hmm.
Alors quand il bascule du côté anglo-saxon, alors ça c'est la presse un peu la presse qui va au combat, hein, combat avec les invités, c'est des révélations. Nous avons aussi l'influence ici au Canada de la presse américaine qui est anglophone 100%. Et là, les informations, on badine pas avec l'information, on donne l'information, on pousse les politiques dans leur dernier retranchement parce que l'information reste l'information. Alors vous vous rendez compte un peu à quel niveau la presse fonctionne et apporte sa contribution à une société guidée de toutes les antivaleurs. Voilà.
Alors Yvon, pouvez-vous nous parler des CAS Info? Un mot sur cette filiale?
Alors, CAS Info, comme nos lecteurs peuvent le lire sur notre site, alors je me suis dit, il faut que j'apporte ma contribution un jour au Congo, mais parce que je suis ici, il faut commencer. CAS Info, c'est une unité du centre d'analyse et des stratégies, sur lequel je suis d'ailleurs en train de travailler, qui a pour objectif d'offrir surtout à la RDC, mais aussi peut-être à la région, au Grand Lac, un bureau d'études pour analyser et proposer. Alors, parce que je suis aux études, et que ce projet est en train de prendre corps chaque jour, et il m'est apparu nécessaire d'accompagner cela par un journal en ligne. Mm-hmm. Alors, nous l'avons appelé CAS Info. CAS, ça veut simplement dire Centre d'analyse et de stratégie, avec d'un côté information, ce qui nous permet donc de couvrir l'actualité, mais d'avoir le côté analyse qui est notre ADN dans le Centre d'analyse et de stratégie. Voilà ce que ça signifie tout simplement. Nous avons comme slogan au-delà de l'info, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la presse a trouvé des concurrents, hein, qui sont des concurrents redoutables, c'est-à-dire le monsieur tout le monde. Tout le monde peut informer aujourd'hui. Je me réveille, je prends mon téléphone, je vois la regrettée Madame Foura qui se noie dans sa Jeep. Mmh. Je filme, je publie. Je suis très rapide que les journalistes. Alors, si tous les journalistes ont fait la même chose, alors, c'est-à-dire que si on fait la course à l'information, les internautes seront les premiers que nous. Si on vient dans le même état d'esprit, alors on n'aura rien fait. C'est pourquoi nous on se dit, la presse, les réseaux sociaux nous obligent de nous adapter à l'évolution du monde. Mm-hmm. Il faut basculer vers l'analyse. C'est pourquoi CAS Info vient en apportant de l'analyse. Parce que l'information brute, nous ne pouvons plus suivre le rythme. C'est se mentir de croire qu'on suit le rythme. Non. C'est pour un temps. L'actualité au Congo, avec l'intensité politique, nous donne l'impression que nous suivons le rythme. Non, à un moment donné, ça va s'arrêter. Les gens voudront savoir où va le pays, pourquoi c'est telle situation. Et moi, je pense que la presse devrait faire le travail d'analyse. C'est cela que se donne comme mission au CAS Info. Et j'espère qu'on va y arriver.
Yvon Mouya, je rappelle que vous êtes Congolais, vivant au Canada depuis 2013, parti d'abord pour raison de suite, et aujourd'hui vous faites l'assistanat, vous êtes assistant à l'université d'Ottawa, et en même temps vous poursuivez vos études, donc vous faites un doctorat en sciences politiques. Alors dites-nous Yvon, est-ce que vous avez des projets pour les pays, vous avez des ambitions pour la RDC?
Oh oui, notre cher Congo, on ne peut pas ne pas avoir de projet pour le pays. Alors, on ne peut donner que ce que l'on a. Ce que j'ai, c'est quoi? Je suis journaliste et je prends des études en politique. Ça me montre combien le monde fonctionne aujourd'hui. Vous savez, Julie, beaucoup de nos compatriotes ont beaucoup investi au Congo en termes de dans le domaine d'informatique, d'ingénierie, etc. Mais si le pays n'est pas un pays normal, je ne sais pas si de tels projets peuvent avoir beaucoup de vie devant eux. Notre souci, c'est de faire à ce que le pays redevienne un pays normal. C'est pourquoi nous apporterons notre contribution en termes de faire avancer le pays. Qu'est-ce que je vais dire concrètement? Et ça se passera dans notre centre, qui est un centre dédié au Congo. Nous voulons rassembler les énergies que regorge notre pays dans tous les domaines de la vie. Dans le centre, nous nous sommes dit comprendre puis résoudre. J'ai comme l'impression que dans notre pays, on cherche à résoudre sans comprendre. Dans tous les pays du monde, il y a des laboratoires où on travaille les politiques publiques avant de les rendre publiques. Je pense que ce que nous, on apportera, c'est de doter le pays d'un laboratoire où on parle de la politique en amont avant de résoudre cette question-là. Je parlais tantôt de la question de l'immigration interne. Mbujimayi se vide, qui est ma ville natale. Mais ce n'est pas que Mbujimayi. Il y a le Bandundu où tout le monde veut venir à Kinshasa. Comment on peut résoudre ces questions-là? Il faut qu'on commence à se poser la question, ça vient d'où? Qu'on comprenne à la base qu'est-ce qui se passe. On nous dira, oui, tout le monde sait qu'il n'y a plus de diamants, c'est pourquoi ils quittent. Est-ce qu'on a fait un travail de fond? Donc, nous pensons qu'il faut mettre ensemble les économistes, mettre ensemble les avocats, mettre ensemble les juristes, mettre ensemble les politiciens, même ceux qui ont dirigé le pays avant, prendre ces expériences-là, les faire travailler et dire au gouvernement la solution se trouve dans ces têtes que nous avons. Ça se passe en France, nous avons IFRI, nous avons CNRS, qui sont des grands centres de recherche, qui ont pour travail de dire au gouvernement « Attention, vous faites fausse route. Attention, les politiques que vous avez mises en place ne nous amèneront nulle part. » La RDC a-t-il ce genre de structure? Peut-être, mais peut-être ne font-ils pas le travail qu'il faut. Voilà, je ne peux que donner ce que j'ai. J'apprends à faire de la politique, mais de la politique autrement. J'apprends à faire de la politique dans les laboratoires. Ça pourrait peut-être m'amener à faire de la politique active, mais mon souci premier, c'est de dire, est-ce qu'on comprend où va le pays? Aujourd'hui, nous sommes un pays potentiellement riche, scandale géologique, tout ce qu'on nous chante depuis notre enfance, mais on en sait quoi? Est-ce qu'on comprend que nous sommes une potentialité mondial en termes de ressources naturelles? Il faut réorienter le pays vers la diplomatie économique. Et nous avons des économistes qui peuvent le faire. Alors, il faut recadrer, réorienter toutes ces connaissances dans un projet que nous portons, qui, le moment venu, pourra peut-être faire changer les choses. Voilà, en quelques mots, ce que moi, je pense apporter au pays. Et je suis sûr que si de tels projets étaient pensés, le pays peut avancer. Donc tout se résume en un mot, il faut que le pays redevienne un pays normal. Un pays où on termine ses études, on se dit voilà la voie à suivre pour avoir le travail. Ça n'existe pas. Un pays où on a un projet, on ne sait pas où est-ce qu'on veut, on peut frapper pour avoir le financement. Voilà, tout se résume à mon avis dans cette phrase-là, qu'on revienne à un pays normal. Et un pays normal, c'est un pays où on travaille en amont, on se pose de bonnes questions avant de résoudre les problèmes qui s'imposent à nous.
Et nous sommes à la fin de cet entretien. Yvan, vous avez un dernier mot, du moins pour aujourd'hui, les mots qui vont nous permettre de clore l'entretien.
Bon, c'est de vous remercier, Julie Ngala, d'avoir pensé à moi. Je vais profiter de votre antenne pour dire bonne année à tout le monde, à ma propre famille, à Didier Moulamba, qui est mon grand frère, et sa famille Junior, mon jeune frère, à la grande famille de Digital Congo, voilà, à tout le pays. Et mon mot sera que, bon, regardons l'avenir du pays, voyons la paix, rien que la paix, Je prie beaucoup pour que la transition qui est en train de se mettre en place puisse être positive afin d'amener le pays aux élections. Peut-être que c'est par là que la refondation du pays, la vraie refondation, peut avoir lieu un jour et permettre à tout le monde de profiter un peu de ce Congo que Dieu nous a donné et qui est tellement riche, mais malheureusement avec une population pauvre. C'est mon souhait et ce sont mes voeux pour cette année nouvelle qui vient de commencer.
Encore une fois, merci Yvan Mouya.
Merci Julie.